infos sur VOA. VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde Aujourd'hui, édition du jeudi 16 avril 2015. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson, les titres.
Les Nations Unies exhortent les autorités de la République démocratique du Congo à exhumer plus de 400 corps d'une fosse commune près de Kinshasa.
Trois civils ont été tués mercredi près de Gao, dans le nord du Mali, dans une attaque suicide contre une base de l'ONU qui a fait aussi 16 blessés.
En Afrique du Sud, le parti au pouvoir et le prince des Zoulous ont condamné les violences xénophobes à Durban et qui menacent de reprendre à Johannesburg.
Le président Barack Obama a salué ce qu'il qualifie de progrès considérable dans la lutte contre Ebola en Afrique de l'Ouest.
L'Iran négocie sur le nucléaire avec les puissances mondiales et non pas avec les parlementaires américains, souligne le président iranien.
Ne manquez pas notre rubrique, la Minute Éco ainsi que les sports. Pour l'instant, le journal. Trois civils ont été tués mercredi près de Gao, dans le nord du Mali, dans une attaque suicide contre une base de l'ONU qui a fait aussi 16 blessés, dont 9 casques bleus nigériens. Un attentat qui illustre, selon l'AFP, l'instabilité persistante dans cette région. L'attaque la plus meurtrière contre la force de l'ONU en octobre s'était produite dans le même secteur d'Ansongo, frappant un convoi de ravitaillement du contingent nigérien qui avait perdu 9 soldats.
En fin de matinée, un véhicule suicide a explosé à l'entrée du camp de la MINUSMA à Ansongo, dans la région de Gao, alors qu'il tentait d'y pénétrer, a affirmé hier la mission de l'ONU au Mali. Le chef de la MINUSMA, Mangi Hamdi, a condamné cette attaque lâche et odieuse, se disant choqué que de valeureux soldats de la paix soient à nouveau pris pour cible, ainsi que des civils innocents. Cet attentat ne détournera pas la MINUSMA de sa mission de rétablissement de la paix et de la sécurité au Mali, a assuré M. Hamdi.
En Guinée, l'opposition a affirmé hier que le bilan des deux jours d'affrontement à Conakry s'élevait à 3 morts et une cinquantaine de blessés, Jean-Roger Bion.
Le bilan provisoire s'établit à 3 morts, une cinquantaine de blessés dont au moins 12 par balle et près de 100 interpellations, a annoncé l'opposition dans une déclaration conjointe. Le précédent bilan de 2 jours de violence à Conakry s'établissait à 2 morts et plus d'une dizaine de blessés. Les opposants guinéens accusent les forces de l'ordre équipées d'armes de guerre d'être assurées de bénéficier d'une impunité absolue. Ils ont à nouveau appelé les militants et sympathisants à participer le lundi 20 avril prochain à une nouvelle marche pacifique. Amnesty International a exhorté mercredi les autorités à mener une enquête approfondie et indépendante sur les tirs des militaires. Damatang Albert Camara, porte-parole du gouvernement, répond qu'une enquête est déjà ouverte à la demande du Premier ministre Mohamed Saïd Fofana.
Les Nations Unies exhortent les autorités de la République démocratique du Congo à exhumer plus de 400 corps d'une fosse commune près de Kinshasa afin de déterminer comment ces personnes sont mortes. Selon les officiels congolais, il y a au moins 421 corps dans cette fosse commune et il s'agirait, disent-ils, de restes de bébés, fœtus et sans-abri.
Le chef du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, José María Aranas, estime cependant qu'il est important de savoir ce qui est arrivé à ces personnes. Nous recommandons l'exhumation, mais il incombe aux autorités, a-t-il déclaré, de rassurer la population et de combattre les rumeurs. L'opposition pense que la fosse commune contient les corps de personnes tuées pendant les manifestations antigouvernementales de janvier, ce que dément le gouvernement.
En RDC toujours, une organisation de défense des droits de l'homme réclame la libération immédiate de jeunes militants congolais détenus au secret depuis un mois et l'ONU demande aux autorités de déférer devant la justice. Bagassi Koura.
La CAJE, l'Association congolaise pour l'accès à la justice, exige la libération immédiate et sans condition des trois membres de la plateforme Filimbi arrêtés le 15 mars à Kinshasa. La CAJE cite aussi les noms de Fred Boma du mouvement Lucha, lutte pour le changement, et de 4 autres militants arrêtés à Goma. José María Aranas, directeur du Bureau des Nations Unies pour les droits de l'homme, demande que tous ces détenus soient mis le plus tôt possible à la disposition de la justice. Le 15 mars dernier, une trentaine de personnes avait été arrêté à Kinshasa. Par la suite, 3 Sénégalais du mouvement Yanamar et 1 Burkinabé du Ballet Citoyen ont été expulsés. L'Assemblée nationale a constitué à la fin mars une mission d'enquête sur les raisons de la détention prolongée de ces militants, mais les conclusions tardent à venir. Pourtant, l'article 18 de la Constitution congolaise dispose que la garde à vue ne peut excéder 48 heures et passer ces délais, la personne gardée à vue doit être relâchée ou mise à la disposition de l'autorité judiciaire compétente.
Et en RDC encore, au moins 5 personnes ont été tuées à la machette et 3 blessées mercredi en territoire de Beni, théâtre depuis plus de 6 mois de fréquents massacres attribués à des rebelles ougandais, a appris l'AFP de sources officielles. Selon Teddy Kataliko, président de l'ONG locale Société Civile du territoire de Beni, le bilan du drame serait plus élevé. Il s'élèverait à 10 morts et il impute la responsabilité de ce massacre aux rebelles musulmans ougandais des forces démocratiques alliées.
En Afrique du Sud, le parti au pouvoir et le prince des Zoulous ont condamné les violences xénophobes à Durban et qui menacent de reprendre à Johannesburg. Michel Joseph.
Quelle que soit la cause de ces actes barbares, le Congrès national africain les considère comme des actes criminels, a fait savoir l'ANC dans un communiqué appelant les Sud-Africains à condamner ces exactions. Dans la journée de mercredi, la situation s'est calmée à Durban après plusieurs jours de violences qui ont fait au moins 6 morts, rapporte l'AFP. Le prince Zoulou, Thulani Zoulou, a tenté également d'apaiser les tensions, disant que son père, le roi, condamnait ces violences xénophobes dans les termes les plus fermes. Ce dernier, Goodwill Zwelithini, chef spirituel de quelque 12 millions de Zoulous, avait déclaré le mois dernier que les immigrants illégaux devaient faire leurs bagages et quitter le pays. Des échauffourées ont eu lieu hier à Johannesburg où des commerçants avaient fermé boutique de peur d'être la cible d'attaques suite à des rumeurs sur les réseaux sociaux. Les autorités du KwaZulu-Natal ont indiqué avoir parlé avec la présidente sud-africaine de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma, qui avait exprimé par téléphone son inquiétude personnelle et celle de l'UA. Certains pays ont pris des mesures pour rapatrier leurs ressortissants sur demande. C'est le cas du Mozambique qui a annoncé mardi la mise en place de camps de transit pour les victimes et demandé aux autorités sud-africaines de prendre des mesures contre ceux qui s'attaquent aux étrangers.
Le président Barack Obama a salué ce qu'il qualifie de progrès considérable dans la lutte contre Ebola en Afrique de l'Ouest. Le chef de l'exécutif américain recevait les dirigeants des 3 pays les plus touchés par l'épidémie. Chérubin Dorsil.
Barack Obama était ce mercredi l'hôte du président guinéen Alpha Condé, de la présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf et de son homologue sierra-léonais Ernest Bai Koroma. Il les a félicités pour leur courage et leur détermination dans cette lutte plutôt difficile. Le président américain a aussi appelé la communauté internationale à la vigilance jusqu'à l'éradication totale de la maladie. Maintenant, nous nous concentrons sur un objectif commun et c'est d'arriver à zéro. Nous ne pouvons pas être complaisants. Ce virus est imprévisible. Nous devons être vigilants et la communauté internationale doit rester pleinement engagée dans un partenariat avec ces 3 pays jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de cas d'Ebola dans ces pays, a dit le président Obama. Le nombre de cas d'Ebola est passé la semaine dernière à moins de 40 en Guinée et en Sierra Leone. Le Libéria n'a dépisté aucun nouveau cas. Un progrès énorme quand on sait qu'Ebola a tué au moins 10 000 personnes dans la région. Des efforts sont maintenant en cours pour la création d'un centre africain de contrôle et de prévention des maladies. Un accord à cette fin a été signé cette semaine, ici à Washington, par le secrétaire d'État John Kerry et la patronne de la Commission de l'Union africaine, la sud-africaine Nkosazana Dlamini-Zuma.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président iranien Hassan Rouhani précise que son pays s'est engagé dans les pourparlers pour arriver à un accord définitif sur le nucléaire avec les grandes 6 puissances du P5+1 et non pas avec les parlementaires américains. Ses propos semblent être en réaction au développement de mardi à Washington où le président Barack Obama s'est engagé à signer une proposition de loi qui donnerait au Congrès un droit de regard sur tout accord avec Téhéran. M. Rouhani a également répété dans son discours hier que l'Iran ne signera aucun accord si toutes les sanctions ne sont pas simultanément levées.
En Irak, les combattants du groupe État islamique ont conquis hier davantage de territoire près de Ramadi, la capitale de la province d'Anbar, selon des habitants et les responsables locaux. Ils ont pris ainsi 3 villages lors d'une offensive lancée mercredi à l'aube.
L'ambassadeur saoudien à Washington, Abel Al-Zubeir, estime que les rebelles houthis du Yémen n'ont pas le choix et doivent renoncer à leur projet de s'emparer de ce pays par la force. La coalition arabe menée par l'Arabie saoudite, a-t-il assuré, fera échouer le projet des rebelles chiites appuyés par l'Iran. Monsieur Zubeir a précisé dans sa conférence de presse que Riyad n'a aucune visée territoriale ou autre au Yémen.
Le diplomate saoudien a par ailleurs déclaré que les Saoudiens commencent à avoir des fissures dans le commandement des rebelles et que certains houthis repassent dans l'armée régulière et il s'attend à une intensification des défections parallèlement à la pression de la coalition. Cette opération continuera jusqu'à ce que les objectifs soient atteints. Il ne peut plus y avoir de demi-mesure, a souligné l'ambassadeur saoudien.
Toujours à Washington, un mini-hélicoptère a atterri sans autorisation hier près du Capitole, siège du Congrès américain, déclenchant une alerte de sécurité dans une zone ultra-sensible. L'appareil était piloté par un facteur de 61 ans, un certain Doug Hughes de Floride. Il avait expliqué auparavant au Tampa Bay Times qu'il envisageait depuis des mois d'interpeller les 535 parlementaires américains sur la corruption suscitée par la déréglementation croissante du financement électoral. Et maintenant, la Minute Éco avec Morgan Guériec.
La BCAO sort du capital de la Banque de développement du Mali. La Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest a cédé, selon le magazine Jeune Afrique, les 15,96% des parts qu'elle détenait dans le capital de cette banque malienne. La cession a été entérinée au cours d'une assemblée générale extraordinaire organisée le 11 avril. Capital Partners, leader du fonds d'investissement panafricain, a indiqué sa volonté d'accompagner la Côte d'Ivoire dans ce qu'il considère comme un boom économique et dans l'accélération de la croissance. Le PDG Vincent Le Guénou, à l'issue de sa rencontre avec les autorités ivoiriennes, a évalué les perspectives.
Nous intervenons en Côte d'Ivoire dans deux grands secteurs, les services financiers et l'énergie. Les services financiers à travers notamment une participation majoritaire dans le groupe Oragan, groupe, qui est un groupe bancaire régional qui vient de faire son entrée en Côte d'Ivoire en 2013 avec le rachat des ex-banques régionales de solidarité qui ont été renommées Oragroup Côte d'Ivoire.
Vincent Le Guénou au micro de nos confrères de la RTI. Les accusations d'abus de position dominante lancées mercredi par la Commission européenne contre le géant Internet Google contrastent avec la position de Washington qui avait abandonné une enquête similaire il y a 2 ans en invoquant un manque de preuves. Google avait simplement accepté de mettre fin à des restrictions liées à sa plateforme de publicité en ligne qui empêchait les annonceurs de mener une campagne parallèle sur des plateformes concurrentes.
À présent, les sports avec Bagassi Koura. Bagassi, bonjour.
Bonjour Idrissa. En Europe, suite et fin des quarts de finale aller de la Ligue des Champions.
Hier soir, Paris Saint-Germain a été battu par Barça 3-1 et c'est par le même score 3-1. Que Porto a battu le Bayern. De grands clubs européens en match de gala cet été, ici même aux États-Unis.
Oui, Manchester United, le FC Barcelone, Chelsea, le Paris Saint-Germain et le FC Porto disputeront cet été, ici aux États-Unis, la Coupe internationale des champions, un tournoi d'avant-saison d'après les organisateurs du tournoi lancé en 2013 et organisé pour la 3e fois par l'entreprise Relevant Sports, aura lieu du 11 juillet au 5 août. La Fiorentina, Club América, première division mexicaine, et 3 équipes de la MLS, le championnat américain de football, les New York Red Bulls, le LA Galaxy et les San Jose Earthquakes doivent également participer.
Championnat d'Afrique de beach soccer.
Oui, dans le groupe A, la Côte d'Ivoire s'est qualifiée pour les demi-finales en battant les Seychelles 2-1. Le Nigeria, lui, a écrasé l'Égypte 4-1. Seuls les 2 finalistes décrocheront les tickets pour représenter l'Afrique au Portugal. Et puis pour terminer, Idrissa, les nouvelles de la NBA, le championnat de basketball nord-américain.
San Antonio 103, New Orleans 108, Orlando 88, Brooklyn Nets 101, Washington 108, Cleveland 113, Détroit 112, New York 90, Miami 105, Philadelphia 101. Indiana 83, Memphis 95.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, début des enregistrements des candidatures pour les régionales, mais déjà, l'ancien mouvement rebelle du 23 mars a prévenu que la mise à l'écart de certains Congolais contraints de se réfugier dans d'autres pays et le non-respect de l'accord de Nairobi resteront un obstacle pour les autorités qui seront élues quant à leur légitimité. Eddie Sango a demandé des détails sur l'opération d'enregistrement des candidatures au rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, Jean-Pierre Kalamba.
Cette opération va aller jusqu'au 5 mai 2015. Après cette période, entre le 6 et le 11, c'est une période de 5 jours que la loi donne aux candidats d'ajouter d'autres candidats et corriger ce qui n'a pas été bon avant que les dossiers soient transmis au bureau de la commission au niveau de Kinshasa pour dernière étude en vue de la publication de la liste provisoire. Je viens de terminer une petite tournée à Kinshasa où je viens de visiter un bureau. Dans le premier, il y avait déjà plus ou moins cette partie qui était passée retirée, qui était en ordre avec 5 candidats indépendants. Les autres sont venus sans mandat express, n'ont pas été servis. J'ai visité le deuxième bureau où il y avait presque les mêmes proportions.
Est-ce que vous pensez que la sécurité est suffisamment assurée pour qu'on commence les opérations électorales?
J'estime que les conditions actuelles sont meilleures par rapport aux conditions de 2006. La preuve est que l'ONU, le Conseil de sécurité, a demandé à la MONUSCO qui était chez nous de se retirer sur le reste du pays pour se concentrer vers l'Est. C'est que les conditions sont meilleures. Mais il y a le ministère de l'Intérieur qui a en charge la sécurité du pays peut bien vous répondre à cette question.
Le mouvement du 23 mars a publié un communiqué disant qu'il ne va pas reconnaître la légitimité des autorités qui seront issues de ces élections aussi longtemps que certains accords, notamment de Nairobi, ne sont pas respectés. C'est-à-dire que la sécurité n'est pas assurée, les retours de réfugiés et autres. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à cela?
La CENI n'était pas partie prenante à ça. Il y a un responsable des mécanismes de suivi, il y a le gouvernement qui a négocié avec N23. Moi, je ne reste qu'un pouvoir organisateur des élections.
Est-ce que vous pensez que les trains ne s'arrêtent pas en chemin pour l'une ou l'autre raison, entre autres pour les raisons financières?
Le budget électoral élaboré concomitamment avec la communauté internationale à travers le PNUD, le gouvernement l'a endossé et défendu devant le Parlement. Nous supposons que chaque institution assumera ses responsabilités.
C'était le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante de RDC, Jean-Pierre Kalamba, joint par Eddie Isango.
La Voix de l'Amérique en RDC, sur la radio communautaire du Katanga, à Lubumbashi, à Kamina et à Likasi.
Le corps diplomatique accrédité au Burkina par la voix de l'ambassadeur des États-Unis, a donné sa position sur le nouveau code électoral en s'érigeant contre, et je cite, « le caractère exclusif de ce code », nous dit notre correspondant à Ouagadougou. Du coup, poursuit Zoumana Wonogo, les partisans de Blaise Compaoré retrouvent là un allié de taille, alors que les organisations de la société civile, citation encore, tombent des nues. Écoutons Zoumana.
C'est au détour d'une rencontre d'explication sur le nouveau code électoral avec le ministre de la coopération régionale du Burkina que Tulinabo Mushengi, l'ambassadeur des États-Unis, a dit ceci.
Le peuple doit avoir l'opportunité de choisir leur candidat et ces candidats doivent venir de toutes les couches sociales de la population. C'est aux électeurs de décider qu'on ne divise pas en différents groupes et c'est ça le principe de base que nous allons continuer à pousser dans nos dialogues avec collègues avec le peuple burkinabé.
Cette prise de position de l'ambassadeur des États-Unis est pratiquement applaudie par les partisans de Blaise Compaoré dans leur lutte anti-code électoral. On écoute Léonce Conné, le président du directoire du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès.
Il soutient la démocratie, de même que nous, l'appel que nous avons fait, ce n'est pas un appel pour nos partis politiques empêchés de se présenter. Nous aurons toujours des candidats pour les élections, mais c'est une lutte pour la démocratie. Je crois que depuis que la transition a commencé, elle est accompagnée par des partenaires du Burkina, des pays amis, au rang desquels les États-Unis, la France. D'une manière générale, je crois que toutes ces ambassades, unanimement, se sont prononcées en faveur d'élections inclusives. J'espère que ces positions-là de pays amis qui suivent la transition vont amener le gouvernement, le CNT, à revoir leur position.
A contrario, les OSC, organisations de la société civile, qui ont toujours bénéficié des prises de position de l'ambassadeur américain, semblent ne plus rien comprendre. Elles ont donné de la voix ce mercredi au cours d'une conférence de presse. Idrissa Nogo, le président du mouvement « Plus rien ne sera comme avant », explique.
Leur présence à nos côtés en ces moments difficiles doit être une présence qui rassure et qui nous donne la sécurité dans notre combat de tous les jours pour donc sécuriser les organes de la transition. Nous estimons qu'elle aurait dû donc trouver des mots forts et des mots qui nous libèrent, qui nous permet donc d'avancer. Parce qu'effectivement, la communauté internationale et particulièrement donc les États-Unis accompagnent la transition depuis l'insurrection. Donc nous estimons quand même que c'est une position qui est suffisamment ambiguë. Voilà, donc c'est une position que nous dénonçons parce qu'on estime quand même que c'est une affaire interne et qu'ils doivent se contenter de nous accompagner au lieu de faire de l'ingérence.
Désiré Ginko, le porte-parole des patriotes du Faso renchérit.
Tant que la communauté internationale sera en phase avec les aspirations de notre peuple, il sera assez évident qu'on va marcher avec. Mais tant qu'elle va chercher à piétiner les aspirations de notre peuple, nous allons sortir et dire oui, il faut que nous ne sommes pas d'accord. On ne peut pas se démarquer de la communauté internationale, c'est pas possible. Le Burkina Faso n'est pas un pays isolé qui va se démarquer des autres. Nous travaillons avec les institutions internationales, mais en même temps, lorsque des institutions aujourd'hui ou des chancelleries veulent nous imposer un dictat, nous leur disons non.
Il faut souligner que la pression de la communauté internationale pèse de plus en plus sur les autorités de la transition pour qu'elles reviennent sur le code électoral. Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Dans Washington Forum ce jeudi 16 avril, le Mali, chronique d'une rébellion déclarée. Qui sont les principaux acteurs de ce conflit? Quels enjeux? Quelles solutions? Et surtout, quel avenir pour un pays tiraillé par des luttes ancestrales? Le dialogue est engagé, mais le gouvernement malien et la coordination des mouvements de l'Azawad tardent à se mettre d'accord. Dites-nous ce que vous en pensez sur notre page Facebook. Je vous donne rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel.
La diaspora africaine des États-Unis s'engage dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Elle a mis sur pied un groupe de pression dirigé par la libérienne Ellen Dunbar, avec pour ambition sensibiliser les ONG et les leaders politiques des États-Unis à l'épidémie qui touche le Libéria, la Guinée et la Sierra Leone. Les précisions de Georges Léonard Sagno.
Le groupe de pression africain sur Ebola a récemment eu une réunion d'information au Sénat américain. Au menu des discussions, l'élaboration d'une stratégie de lutte plus efficace contre le virus Ebola qui a déjà tué plus de 10 000 personnes sur plus de 25 000 cas décelés en Afrique de l'Ouest. Madame Hélène Dunbar et ses collègues ont suggéré que le Congrès américain fasse pression sur les chefs d'État des pays affectés par la maladie afin qu'ils prennent au sérieux la lutte contre cette épidémie.
The main purpose of the meeting to strategize and see how we can conduct a congressional briefing.
L'objectif principal de la rencontre était d'élaborer une synergie d'action entre la diaspora africaine et les membres du Congrès américain afin de lutter vigoureusement contre la pandémie d'Ebola en Afrique.
Ils ont déploré la faible couverture de l'épidémie par les médias locaux sur le terrain et sur les réseaux sociaux, ce qui fait croire aux États-Unis et à la communauté internationale qu'Ebola est maîtrisé, alors que ce n'est pas le cas, a souligné Ellen Dunbar. Cette dernière a invité les dirigeants ouest-africains à une gestion saine des fonds déjà mobilisés par les donateurs et les pays amis. Pour sa part, Joël Segal, le cofondateur du groupe, a souligné que les gens meurent à longueur de journée dans les pays infectés. N'est-ce pas que l'Afrique est le berceau de l'humanité, s'est-il interrogé, avant de dire que le continent africain a besoin d'infrastructures ultra-modernes de santé bien équipées.
Le président Obama a fait un plaidoyer pour l'obtention de la somme de 6,2 milliards de dollars auprès des donateurs pour éradiquer Ebola. Mais cette demande n'a toujours pas été satisfaite. Nous en appelons à la forte mobilisation des Africains, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du continent, afin de mettre pression sur les gouvernements, les riches du monde, afin d'agir pour sauver l'Afrique d'Ebola, la tuberculose, le sida, la malaria. Pas dans 5 ans, mais maintenant. Il devrait y avoir un plan Marshall pour l'Afrique.
Que pense le président de la communauté guinéenne de cette maladie Ebola? Écoutons Sam Souma qui a participé à cette réunion de haut niveau.
Le gros du travail, c'est au niveau du pays où la sensibilisation de la population, les moyens qui doivent être à la disposition de la population pour qu'on puisse non seulement se protéger contre la maladie, mais aussi guérir ceux qui sont déjà atteints de cette maladie.
Comme on le voit, le meeting de Washington semble être l'élément déclencheur d'une vaste campagne de sensibilisation et de recherche de fonds pour bouter hors d'Afrique le virus Ebola qui continue d'endeuiller des foyers en Afrique de l'Ouest.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Le président Barack Obama et le premier ministre irakien Haïdar al-Abadi ont discuté cette semaine de la lutte contre le groupe État islamique. De son côté, le département d'État américain mène d'autres efforts sur le même front. Les précisions de Lionel Gahima.
De représentants de 11 pays membres de la coalition américaine contre le groupe État islamique effectuent actuellement une tournée ici aux États-Unis. Au programme de rencontres à Washington, New York et San Francisco pour explorer les moyens de contrer la propagande du groupe militant, en particulier l'attrait qu'il exerce sur certains étrangers. Plus de 3000 Marocains ont déjà rejoint des rangs du groupe en Irak et en Syrie, a fait remarquer le législateur marocain Mohamed Ben Khaled qui participe à la tournée. Les principales raisons sont le chômage et la pauvreté. Comme vous le savez, la plupart de ces gens sont à la recherche d'une vie meilleure qu'ils peuvent n'est pas trouver dans leur propre pays. Le groupe État islamique utilise avec succès des médias sociaux pour faire appel aux étrangers, explique Khaled Okacha, directeur du Centre national égyptien d'études des sécurités. Il cible donc les jeunes en quête probablement d'aventures, de nouvelles expériences et qui peut-être ont aussi en eux une violence qu'ils veulent exprimer. Selon des responsables américains, plus de 20 000 étrangers ont rejoint les rangs du groupe État islamique, dont environ 3 400 occidentaux. Parmi eux, le soi-disant djihadiste John, qui est apparu dans plusieurs vidéos de décapitation de l'État islamique et qui serait britannique. Récemment, 3 adolescentes sont parties en avion de Londres pour la Turquie, dans ce qui, de l'avis des enquêteurs, était une tentative de rejoindre le groupe État islamique. Pour contrer les extrémistes, les départements d'État aident des gouvernements étrangers à utiliser des médias traditionnels et sociaux pour relater les expériences de communautés touchées par la violence militante, a expliqué Sharik Zafar, représentant spécial du département d'État pour les communautés musulmanes. D'autres histoires importantes, à mon avis, sont celles des transfuges, des gens qui, peut-être par choix ou sous la contrainte, sont effectivement partis combattre avec le groupe, puis se sont dit « ce n'est pas ce pour lequel je me suis engagé », a expliqué le représentant spécial du département d'État pour les communautés musulmanes.
Salut les amis, Roger Montou, VOA Afrique. Retrouvez-moi ces jeudis dans RM Show, au menu African Music. Et bien sûr que nous continuons avec notre sujet hebdomadaire, la grande question, les clandestins africains. Pourquoi quittent-ils leur pays d'origine? Nous aurons des témoignages des clandestins dans RM Show. Ne ratez pas cette émission interactive. Appelez au 001-202-619-31-40. Je répète, c'est le 001-202-619-31-40. Envoyez-nous un message sur notre groupe Facebook Roger Muntou, la voix de l'Amérique. RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est Tony Saad. Vous êtes en train de me suivre sur VOA Afrique, dans la ciment.
Tikmana Seka. Antichrist. Mad. Tony Saad. Mad.
Bakamaro et Angoyo, le buzz le plus rapide de Kinshasa. 3 jours à Bamako, il est tombé.
Azunga, 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 Azunga.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique sur la Voix de l'Amérique, en direct de Washington. Et bien, c'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique sur la Voix de l'Amérique.
Au cœur de l'info.